Bonsoir, nous vous proposons ce jour une émission réalisée à partir d'un entretien avec Jean Cubeau. Entretien de septembre 2010 à l'occasion de la parution d'un livre qu'il avait réalisé, une version d'un ouvrage de Pierre Macorlan, La Cavalière Elsa en bande dessinée. Projet original s'il en est, que ce soit du choix du titre ou de l'idée de la bande dessinée. Ce projet est aussi né d'une amitié avec le président d'une association culturelle locale de Saint-Cyr-sur-Morin, la patrie de Macorlan. Il s'agit de l'association Terroir et de son président Pierre Poma. Le projet est aussi né à l'occasion de la commémoration des 40 ans de la disparition de Macorlan, le 27 juin 1970 à Saint-Cyr-sur-Morin. Il a été réalisé en partenariat avec la commune et le musée départemental des pays de Seine-et-Marne. Mais peut-être connaissez-vous Jean Cubeau sans le connaître, car peut-être que dans votre enfance, vous avez eu une période patate de canapé devant votre téléviseur et que vous avez suivi avec passion les aventures de Clémentine, Moi Renard ou du Père Castor. Eh bien, toutes ces réalisations, c'était lui, comme il va vous le conter. Nous illustrerons ses propos de plage musicale, ayant un rapport à la fois lointain et proche avec cet entretien. Lointain parce que sans rapport direct avec les propos tenus, et proche parce que le jour suivant, à l'occasion de cette commémoration, était donné un récital cabaret Macorlan, le 18 septembre 2010, à Saint-Cyr-sur-Morin. Une création de Pierre Delorme. Au départ de cette aventure, il y a un spectacle théâtral et musical imaginé par Philippe Clément du Théâtre de l'Iris avec la participation de Pierre Delorme et de différents comédiens, musiciens et chanteuses de l'Iris et de l'ENM. Il fut présenté au Théâtre de l'Iris en octobre 2006. Pierre Delorme, enthousiasmé par ce travail et par l'œuvre de Pierre Macorlan, a décidé de le reprendre à son compte en le retravaillant dans une version plus centrée sur les chansons de Pierre Macorlan. L'enregistrement de ce spectacle, nous vous l'avons déjà proposé dans une émission le 22 décembre 2010. Seulement, ce soir-là, Pierre Delorme, Anne Fromm et Gérard Lapalu à l'accordéon nous ont proposé une deuxième partie en musique et en chansons, restée pour nos auditeurs inédite. C'est donc en puisant dans cette deuxième partie que nous vous proposons un certain nombre de plages musicales enregistrées en public, en intermède des propos de Jean Cubeau, y compris les chansons par Pierre Delorme dans des versions inédites. Bonne écoute. Jean Cubeau, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose de nous présenter le travail que vous venez de réaliser autour de Pierre Macorlan, mais peut-être auparavant, on peut résumer votre carrière, votre trajectoire professionnelle, quoi. Vous êtes originaire de Seine-et-Marne ou...
Non, pas du tout. Je suis un enfant apatride, fils de militaire. Et je suis né à Marrakech, sous l'aile d'un T6, qui est le plus bel avion du monde, ne l'oubliez jamais. Hein.
Sous l'aile d'un T6.
Puis après, on est rentré en France et on était dans la région parisienne. Et très vite, j'ai rencontré Pierre, avec qui on est devenu amis. Et puis, il avait un appartement à Paris, donc je suis venu m'installer à Paris. Donc j'y suis resté, disons, 40 ans.
Ouais. Et activité professionnelle à ce moment-là, c'était quoi ?
Alors, moi j'ai pas fait des études fantastiques, hein, puisque pendant, étant fils de militaire, là, jusqu'à l'âge de 14 ans, on a déménagé 14 fois, donc c'était pas vraiment propice au développement des études. J'ai commencé en faisant des petits boulots, donc comme je savais dessiner, j'ai été voir un architecte qui m'a appris à faire des plans, donc j'ai commencé à faire du dessin d'architecture. Et comme ça marchait bien, j'ai grimpé les échelons, donc et à la fin j'étais dessinateur-projeteur. Et donc ça, pendant 3-4 ans, ça m'a plu parce que c'était nouveau, parce que c'était bien. Puis bon, au bout d'un moment, ça arrive quand même assez vite à devenir un travail répétitif, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai fait un peu de décoration. Et puis j'ai commencé à faire de l'illustration. Donc j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui faisaient du dessin animé, en particulier Mézières, qui m'a bien décomplexé. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, si tu as envie de le faire, fais-le,
fonce.
La seule chose, tu vas peut-être galérer au début, mais la seule chose, c'est de résister, et puis de faire, et puis tu verras. Voilà.
Vous avez démarré comme ça, mais un peu de démarchage auprès des gens du métier pour arriver à trouver des contrats, enfin, si on peut parler de contrats.
Ouais, non, je n'ai pas poussé très loin. J'ai vu les gens de chez Bayard qui m'ont fait confiance. Et donc, j'ai fait un petit truc, je crois que c'était 2 pages. Et puis, j'ai fait aussi de l'illustration de presse. Donc, j'allais voir des magazines qui me prenaient des vignettes, quoi, des petits cabochons.
Des dessins humoristiques ou...
Oui, humoristiques, ouais. Humoristiques et, ou illustrations, quoi. Mais plutôt dessin de presse, hein, pas illustration en couleur léchée, non, c'était,
non, ouais,
c'était
du trait, quoi. Pour illustrer un article, voilà. Par exemple.
Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de voir des gens qui étaient à l'Express, et puis bon, ils m'ont dit, on va faire un essai, puis... Voilà, donc je suis resté 12 ans à l'Express.
C'était dans quelles années,
ça ? De août 70 à août 82.
Ouais.
Et donc, l'Express était un lieu de passage formidable, parce que c'était un lieu où, à la fin du magazine, il y avait des pages qui s'appelaient Société, et qui souvent, c'était des entretiens avec des personnalités, et donc j'ai vu passer tous les gens qui formaient l'intelligentsia, si on peut dire, quoi. Et donc, côtoyer des gens comme ça, même s'il n'y a pas vraiment d'échange, mais par exemple, moi, Roland Barthes, je m'en rappelle, Foucault, bon, il y avait des gens de tous bords c'était agréable de...
Et vous croquiez leur portrait
Non, parce que à ce moment-là, le dessinateur de l'Express qui était plus politique et qui faisait ça, c'était Tim, qui nous a quittés depuis, et qui le faisait très bien, quoi. Donc il y avait Tim qui faisait les dessins politiques et Sampé qui faisait les dessins société. Donc moi, j'étais plus relégué aux illustrations de type Madame Express, ou quand il y avait des choses un peu techniques qu'il fallait expliquer. Donc c'était entre le dessin et le graphisme.
Et pendant ces 12 années-là, vous ne faites que ça. pas d'autres...
Si, je continuais à faire des dessins de presse, du moins que ça n'empiétait pas sur les activités de l'Express. Dans mon contrat, c'était convenu que je pouvais faire d'autres choses, à condition que ça concurrence pas directement ce que je faisais. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait des cartes pour Géo, parce que ça s'est fait un peu fortuitement, parce que l'Express, c'est aussi un lieu de passage. Il y avait des gens qui venaient et puis qui partaient. Et donc, comme on les connaissait, comme ceux qui ont fondé Géo, c'était des anciens de l'Express. Sachant que je voulais faire ça, ils m'ont demandé de le faire. Donc, j'ai participé au numéro zéro, puis on a continué, quoi.
J'ai l'Amazon, le Yangtze, le Mississippi, des fleuves bleus, des fleuves jaunes, mais la plupart étaient en gris. Fleuves majestueux et calmes, ou douloureux comme la vie. Jolies rivières, forêts sauvages, ou fleuves anciens pleins d'esprit. J'ai vu des fleuves au bout du monde, et j'ai traîné partout ma vie. Suis revenu près de ma blonde, dormir dans le creux de son lit. J'ai vu des fleuves innombrables, certains modestes et sans renom, d'autres prétendus indomptables, mais qu'on avait mis en prison. Traîne sur son dos la Seine, Paris qui dort dans son berceau. Les ponts s'allument en ribambelle, s'en vont nos rêves au fil de l'eau. Le vent joue sur la passerelle, au-dessus des quais des maisons. En bas passe une demoiselle, à sa lèvre une chanson. En bas passe une demoiselle, l'amour l'appelle, il a raison. Mes pensées s'en vont avec elle, vers l'avenir et l'horizon.
De ces 12 ans, vous avez une opportunité qui vous fait quitter l'Express.
Pendant ces 12 ans, j'avais toujours une idée derrière la tête, de toute façon, c'était faire du cinéma. Parce que pendant mon service militaire, j'avais lu le bouquin de Yves Gibault, Allons enfants, et il y avait un petit peu des similitudes. C'est-à-dire que moi j'étais fils d'adjudant-chef, et dans le livre il est fils d'adjudant-chef, et puis un beau jour il décide de faire du cinéma. Je dis, si lui il peut le faire, il n'y a pas d'argent que moi je ne veux pas non plus. Donc voilà, donc j'ai essayé, au grand dam de ma compagne, qui est devenue ma femme après, l'argent du ménage passait à acheter de la pellicule et à faire des bouts de films. Et j'ai fait des courts-métrages comme ça. Et puis, alors le fait d'être...
Courts-métrages d'animation ?
Cinéma. Que donc j'ai présenté au CNC. Et donc par l'intermédiaire de Michel Delain, qui connaissait très bien le milieu du cinéma, puisqu'il était critique, j'ai rencontré... Voilà, type pas que j'oublie son nom.
Ça reviendra. Et des fictions ou des
Des fictions. Et qui m'a parrainé au CNC. Et donc, je fais un court-métrage comme ça. Il a critiqué, d'ailleurs, il avait un œil extraordinaire, parce qu'il a vu tout de suite les points forts et les points faibles. Et ça a été quelque chose qui m'a terriblement aidé, parce que c'est celui qui faisait ses films avec Romy Schneider,
Oui, Schneider, je ne suis pas un spécialiste dans Romy Schneider.
Si, celui qui a fait les choses de la vie.
Sauté.
Voilà, Claude Sauté. Et qui avait un œil et une analyse incroyable. Donc, moi, mon idée, c'était toujours de faire du dessin, mais aussi d'essayer de faire du cinéma.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen diese Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen, wenn man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich stehen sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt ihr dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, geh, wisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getös an einem Hafen, wenn man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster. Und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen ein Jägerchen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen zu mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen, Herren, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir.
Et un beau jour, un ami qui connaissait ce garçon, qui était un garçon qui venait d'hériter, si j'ai bien compris, des images d'Épinal, du stock des images d'Épinal. Et donc on s'était rencontrés comme ça, et il m'a demandé si j'avais des idées, que je vienne voir son stock, et puis que je fasse des propositions. Comme le cinéma et le dessin animé, ça m'a très tôt interpellé, puisque quand j'étais à l'école, je faisais des petits dessins en marge, comme tous les camps, qui se respectent. Et à 14 ans, j'avais déjà le désir de faire un dessin animé, puis bon, j'étais tombé en déséquilibre. Donc là, j'ai trouvé que c'était intéressant, donc j'ai regardé un peu son stock et je suis tombé sur les devinettes d'Épinal qui offraient la possibilité de faire des petits modules très courts et donc très diversifiés, ce qui pouvait être intéressant pour dans le cadre d'une exploitation télévisuelle. Mmh. Donc le garçon en question m'a dit, fais-moi un pilote et puis on va essayer d'aller le vendre. Donc, j'ai pris quelques jours de congé, puis j'ai fait un pilote de 5 minutes. Et on a été voir Jacqueline Joubert avec ce pilote, qui l'a regardé, mais qui a trouvé ça intéressant et qui a dit, moi ça m'intéresse à la condition qu'on en fasse 5 heures. Donc là, ça changeait la donne, parce que moi j'imaginais qu'on allait faire des minutes et 5 heures, ça devenait un truc professionnel, quoi. Donc il a fallu choisir, et j'ai choisi. Donc j'ai donné ma démission à l'Express, et donc j'ai installé un studio, donc j'ai recherché un local, c'est-à-dire un studio à Paris, engagé une équipe de jeunes dessinateurs, Et on était une dizaine à peu près. Ah, ouais. On était rue de la Lune, je m'en souviens très bien, dans un petit local. On a acheté un bon titre. Personne ne savait s'en servir. Donc on avait pris un technicien pour nous aider à nous servir de ce truc-là. Et donc on a fait nos 5 heures comme ça de
C'est passé à la télévision, mais en petite séquence de 5 minutes.
Oui, en petite séquence de 5 minutes, c'est des petits modules, quoi. Donc ça passait tous les jours, il y avait 5 minutes. Donc c'était, je me souviens, le générique, c'était un petit sage qui disait « chercher l'image, cacher dans l'image ». Et à la fin, l'image apparaissait, clignotait, et puis c'était souvent un petit personnage qui sortait d'une pièce, qui s'en allait. Donc ça, c'était la première expérience. Et puis, c'est
le dessin.
Oui, parce que le dessin animé, c'est magique. On est là avec un bout de crayon, et hop, on dessine, on découpe, on colle, et hop, on met ça sous la caméra, et ça s'anime. Et donc, ça devient vivant, et c'est magique, quoi.
Mes copains de ce temps, c'était pas des artistes, c'était pas des poètes, pas des musiciens, c'était des mécanos de piètres guitaristes, mais dans l'art d'être amis, ils avaient du talent. S'il est vrai qu'à 20 ans, on veut bouffer le monde, nous n'avions, eux et moi, pas très gros appétit. S'il est vrai qu'à 20 ans, certains ont les dents longues, les nôtres étaient gâtés par de sacrés caries. Je vous dis pas leur nom, ça n'a pas d'importance. Ils s'appelaient pareil qu'une foule de gens, ceux-là qu'on voit passer au petit bonheur la chance, qui vont gagner leur vie sans rêve extravagant. Mes copains de ce temps, c'était comme des frères que la vie machinale avait jetés par là, car la vie a parfois de mauvaises manières. Faut-il encore le dire et en faire tout un plat? Il sonnait à ma porte au milieu du dimanche pour aller faire un tour dans ce quartier perdu, ou bien jusqu'au boulevard pour voir passer la chance. Le long de ce boulevard, on a tant attendu. Mes copains de ce temps, silencieuse figure, s'effacèrent lentement sans faire de trou dans l'air. Mais comme on se dissout humblement disparure, à tâtons dans la nuit vers un peu de lumière. Mes copains de ce temps, bien sûr, j'y repense. Je m'arrête un instant au hasard d'une rue, me demande où ils sont, s'ils ont eu de la chance, puis je reprends ma place dans la foule inconnue.
Donc il vous fallait trouver d'autres commandes ou faire d'autres propositions.
Voilà, donc à la fin de cette expérience-là, le garçon là qui s'occupait d'Épinal, ça s'est pas très bien passé. Il y a des banquiers locaux qui ont racheté le truc et qui m'ont proposé d'aller faire la même chose à Épinal. Mais à ce moment-là, moi, je m'étais marié, je venais d'avoir une petite fille, j'avais pas envie de... Ma vie était à Paris, quoi. Donc j'ai dit, ça fait rien, on s'arrête là.
Ça avait duré combien de temps, l'épisode?
Ça a duré un an et demi à peu près, quoi, pour faire ça. Et donc là, un jour, j'avais préparé un dossier pour essayer de faire la suite, que j'avais montré à Jacqueline Joubert, qui avait trouvé ça intéressant, mais elle m'avait dit, mon petit Jean, parce qu'elle m'aimait bien. Je vais te présenter un producteur qui cherche un réalisateur. Et tu verras, ça peut être intéressant de travailler avec lui. Donc j'ai rencontré, c'était Bruno Huchez. Et il était en train de préparer Clémentine. Et il venait de se séparer, il y avait un réalisateur qui était pressenti, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, c'était René Borg, que j'avais déjà rencontré, que j'aimais bien, quoi. Mm-hmm. Et puis bon, ben René est parti, il m'a dit, ben vas-y, prends la place. Donc j'ai pris la suite de René Borg, et j'ai réalisé Clémentine, il y avait 20, là c'était une grosse production, c'était 26 épisodes de 26 minutes, donc c'est du lourd.
Toujours avec une équipe de 10 personnes.
Alors, c'était une coproduction avec les Japonais. Donc, en France, on faisait tout ce qui est création. C'est-à-dire qu'on, il y avait deux garçons qui faisaient l'écriture. Ils étaient Torrent et Massard, Olivier Massard, Gilles Torrent et Olivier Massard. Et nous, à partir de ça, on cherchait des personnages. On faisait les storyboards, les principaux layouts, les principaux personnages, la mise en couleur des principaux personnages. Et tout ça partait au Japon, où ils faisaient, à partir des layouts, l'animation qui nous revenait. Et en France, on faisait le montage et la post-production. Donc, ça m'a permis d'aller au Japon et de voir un petit peu leur technique. C'était un petit peu le balbutiement, c'était le début de l'animation pour la télévision. Donc il a fallu trouver des techniques pour pouvoir à la fois communiquer et à la fois travailler ensemble et réaliser ça. Donc on avait trouvé des systèmes de lip-sync pour les bouches, pour faire
parler
en français. Donc on enregistrait des voix témoins qu'on dépouillait, puis on mettait des bouches. On avait un système de 6 bouches qu'on avait codifié par des ADC. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une labiale particulière, on mettait la lettre qui correspondait à la labiale. C'est comme ça que ça pouvait parler, faire notre doublage ensuite. Donc, une fois que ces 26 épisodes ont été finis, la chaîne en a recommandé 26 d'ailleurs, je crois, ou 13, je sais plus, je m'en rappelle même plus. Non, je crois que c'était 13. Donc, on a fait 13 épisodes suivants. Et puis après, ben, on est passé toujours avec le même producteur, on est passé à Moirenard, où on a fait 26 épisodes. Moirenard, c'était une adaptation très libre et moderne du roman de Renard. Hein. Ouais, c'était très rigolo.
Et toujours avec la télévision française, avec
toujours,
la
Antenne 2, publique, ouais, Antenne 2. Ouais, c'était Antenne 2, oui. Voilà.
J'irai sur la mer jusqu'à mon pays pour revoir mes frères et tous mes amis. Dans les rues de France, je cherche une amie, mais hélas, la France n'est pas mon amie. Le soleil se lève derrière la station, la foule qui rêve quitte les wagons, la foule qui passe ignore mon prénom, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de nom. Les flics qui guettent, ils tournent en rond. Parfois ils nous jettent dans de sales prisons, nous jettent à la mer ou dans des avions, troupeaux de misère sans papier et sans nom. Jadis nos pères étaient emmenés au loin de leur terre, une chaîne aux pieds. Je n'ai plus de chaîne, pas de fer aux pieds, mais suis-je quand même bien en liberté? Le soleil se couche derrière la station, et moi je me couche dessous un carton. Paris fait le mort, ses rues et ses ponts, et moi je m'endors comme un tas de chiffons. J'irai sur la mer jusqu'à mon pays, terre de misère, vieille colonie, colonie de France, je cherche une amie, mais hélas la France n'est pas mon amie.
Voilà, et puis après...
Jusqu'à aujourd'hui, non? Vous êtes encore sur ce genre de projet?
Bon ben non, là je suis à la retraite. Mais si vous voulez, j'en ai fait beaucoup. Après moi, Renard, j'ai changé de producteur parce qu'on a eu quelques... On s'est pas très bien entendu, quoi. Donc j'ai changé. Et après, j'ai monté une maison de production, donc. Et j'ai travaillé avec une société qui s'appelait Label 35, où on faisait l'animation. Eux faisaient une exploitation informatique de l'animation qu'on faisait, nous, d'une manière traditionnelle. Donc ça, c'était une expérience assez enrichissante. Donc c'est cette société que j'avais appelée Typhoon, parce que ça faisait cartoon. Et en même temps...
Dans cette époque, bon, la demande était moins forte qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, il passait beaucoup moins de dessins animés pour enfants à la télé qu'aujourd'hui, si on tient compte aujourd'hui de la multitude de chaînes, Gulli et autres, voilà. qui nous avouent. Donc la concurrence devait être d'autant plus dure, non?
Non, parce qu'on était dans les premiers à faire ça. Et par exemple, en Europe, la France était... La principale industrie, par exemple, des dessins animés. Tout de suite derrière, il y avait les Belges, mais les Anglais en faisaient très peu, parce qu'ils ont plus une tradition d'illustration, donc ils faisaient pas du tout les mêmes produits. Les Allemands n'en faisaient pas grand-chose non plus. Après, ils se sont mis, tout le monde s'y est mis. Mais à ce moment-là encore, il y avait une demande des chaînes. Parce qu'il y avait Antenne 2, mais il y avait FR3, il y avait la 1, et il y avait la 5. Et donc, mon expérience a tourné court, parce qu'on avait une série 26 fois 26 minutes avec la 5, qui nous a bien planté, quoi, parce qu'on a posé le bilan, et personne ne s'attendait à ça. Donc, ils nous ont laissé une dette qui était un peu trop importante pour pouvoir l'assumer. Quoi.
Et ça vous a obligé à arrêter la société.
Donc c'est à ce moment-là, j'ai rencontré Claude Carrère qui a racheté les actifs de Typhoon, parce qu'entre-temps, on avait fait la première série du Père Castor, dont on était coproducteur avec GMT. Donc il a racheté le fond, quoi, le petit catalogue, puisqu'il n'y avait que ça. Les autres, on était façonniers, mais pas producteurs. Donc c'était le Père Castor qui était notre première coproduction, et cette fameuse série qui s'est pas faite du coup.
Et quel regard vous portez avec le recul, puisque vous avez une expérience dans ce domaine, sur l'évolution du dessin animé d'enfants au fil de ces 30 années? Les choses vont s'améliorant, les choses vont s'aggravant pour les gosses, pour les créateurs, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est difficile parce qu'il y a plusieurs paramètres. Si on prend du point de vue de la qualité, c'est évident que c'est beaucoup plus... Aujourd'hui, l'assistance par ordinateur s'est superbement développée. Et donc, on arrive à des produits qui sont vraiment bien, bien ficelés, quoi. Qui sont vraiment... Maintenant, il y a même l'apport du 3D. Donc, il y a des mélanges de 2D-3D qui se voient même plus et qui sont extrêmement bien faits et qui apportent une réelle qualité aux produits qui sont faits, quoi, si on peut appeler ça des produits. Maintenant, pour ce qui est du contenu même des
créativité, de la richesse des histoires.
C'est toujours aussi riche, hein. Ouais, vraiment. Il n'y a pas de. La seule chose qui va se faire sentir dans les années qui viennent, c'est que ça s'est multiplié et que la demande va être beaucoup, en tout cas pour les maisons de production françaises, va être confrontée à une concurrence invraisemblable. Donc ça va être plus difficile effectivement de monter des coproductions, quoi, ou des productions, parce que il y a moins de demandes. Par exemple, avant il y avait la 2, la 3, alors aujourd'hui il y a la 6 qui prend des parts. Bon, mais à part ça, la 2 ne fait plus rien. Le service public a monté une centrale d'achat et donc c'est regroupé. Donc la vente se fait par l'intermédiaire de cette. Donc c'est très difficile quand on est producteur de se retrouver.
Il y a Canal+, il y a Al Jazeera, il y a Gulli, il y a plein de nouveaux clients.
Oui, mais c'est des accompagnateurs. C'est pas, ça coûte très cher de fabriquer.
Ils
coproduisent, ils amènent. Voilà, c'est un petit peu plus que de l'achat, mais guère plus, quoi. Mm. Donc les vraies chaînes qui produisent, c'est la centrale d'achat. Et TF1 qui a beaucoup produit et qui en ce moment produit un petit peu moins parce que c'est un peu cyclique aussi parce qu'ils engrangent et puis après il faut les diffuser, donc ça, c'est un métier très très en dents
aussi. La bande dessinée dans tout ça, avant de parler de la Cavalière Elsa, il y a eu d'autres expériences, vous avez fait d'autres choses ou...
Oui, mais c'est des choses que c'était des travaux personnels, non. En édition, non. Non, parce que quand je suis rentré à l'Express, c'était trop difficile de faire de la bande dessinée, alors que le dessin de presse, c'est plus facile, parce que c'est à chaque fois, c'est moins long, quoi. C'est pas. Donc c'était beaucoup plus commode pour moi à ce moment-là, qui travaillait à l'Express, que de mener en parallèle une bande dessinée, ça aurait pas été possible. Et quand je suis passé à la production de dessins animés, je travaillais déjà 12 heures par jour.
Parce que c'est autre chose.
Il ne faut pas en plus.
Der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Macbeth, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmuel Meier ward verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nicht beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von all dem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war beschämt. Mackie, welches war dein Preis? wachte auf und war geschenkt. Mäcki, welches war dein Preis?
Alors maintenant, la question qui vient, c'est comment vous vous êtes trouvé embarqué dans ce bouquin qui est quand même quelque chose d'important, hein, de la cavalière Elsa.
Ben, la vie, c'est fait d'opportunités. On les prend ou on les prend pas. Donc ben, là, c'est pareil. Donc c'est la chance d'avoir des amis. Donc Pierre est venu à la maison parce qu'il avait des choses à faire dans le sud, donc il est venu s'installer puisque maintenant on est à Nîmes. Et puis il a vu que je faisais des travaux personnels, quoi. Quand j'ai arrêté de faire de l'animation, bon, j'ai quand même continué à en faire pour un éditeur local, mais c'est des petits trucs. Et donc, entre-temps, ben, je faisais de la bande dessinée, mais pour moi, quoi. Je faisais de la recherche comme ça. Et ben, il m'a dit que ça serait bien si on avait un projet commun. Il m'a dit qu'il aimerait beaucoup faire quelque chose sur Pierre Macorlan. Et donc, il m'a donné un paquet de bouquins à lire en me disant, ben, choisis un bouquin, puis voyons ce qu'on peut faire.
C'est vous qui avez choisi le cavalier.
Ouais, parce que dans les ouvrages qu'il y avait, bon, il y en avait qui étaient faits. C'était l'encre de Méséricorde, le chien jaune. Donc pas refaire la même chose. Il y avait l'étoile mutatine, mais j'ai appris après qu'il y avait quelqu'un qui était dessus. Et moi, je sortais, le dernier truc que j'ai fait, c'était Barbe Rouge. Donc j'avais déjà beaucoup donné en animation sur là-dessus. Donc je préférais quelque chose de nouveau, quoi. Et puis Elsa, ça m'a paru intéressant parce que c'était le plus atypique des romans, on peut dire.
Oui. C'est le plus. Et en même temps, je veux dire, vous avez pris un chenal, c'est un roman impossible.
Quoi. Et c'était un roman impossible.
Alors vous êtes attelé à. Enfin, faire non seulement le dessin, mais le découpage,
le
scénario,
oui,
et tout.
Bon, en même temps, quand on fait de la BD, c'est comme si on faisait un storyboard de dessin animé. On a quand même il y a des passerelles, des choses qui se ressemblent beaucoup.
Mais le roman vous a passionné, l'histoire, le scénario,
elle m'a étonné d'abord, et après... plus je rentrais dedans, plus je la trouvais intéressante parce que il a des espèces de d'intuition fulgurante de ce qui était l'histoire, quoi, et de ce qui allait advenir. Parce que en même temps,
oui, parce que est-ce qu'on peut dire de ce roman, bon, il a été écrit, il a été publié en 1921, tout de suite après la guerre, que Macorlan avait traversé de l'intérieur, on peut dire, à la fois comme militaire puis comme correspondant de presse après, et ce roman fait référence à beaucoup de choses, la révolution russe, le pouvoir fasciste, on peut dire même, et c'est une drôle d'histoire, quoi, dans laquelle il embarque cette fille. Comment vous avez ressenti tout ça? C'est qu'il a voulu faire une œuvre politique, là, ou...
Social. Non, parce que on sent bien que c'est pas son problème. C'est pas, non, je pense que son problème, c'est par rapport à l'histoire. C'est-à-dire, finalement, l'histoire, tout à l'heure, je disais que la vie, c'est des opportunités. Ben, l'histoire, c'est pareil. Il suffit d'un événement pour que ça bascule dans un sens ou que ça bascule dans un autre côté. Et je pense que c'est ça qui l'a intéressé. Son idée, c'est de dire, la guerre, elle n'est pas finie, elle continue, qu'est-ce qui se passe, quelles vont être les alliances, comment que ça va se passer, voilà. Donc on sent bien qu'il y a des choses qui sont aussi des choses du moment, hein, de l'atmosphère, j'imagine. Je n'ai pas vécu en 1920, je n'ai pas fait la guerre de 14, mais on sent bien qu'il y a des choses qui sont des situations qui sont ressenties dans l'instant. Et par exemple, le fait que ce soit des Chinois, moi, toute ma jeunesse, on m'a rabattu les oreilles avec le péril jaune. Quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, mais c'est vrai qu'à cette époque...
On parle plus,
mais on l'a vu. Et donc, je pense que c'est plus par rapport à l'histoire qu'il a eu une démarche que par rapport à... C'est ce en quoi sa démarche est littéraire, quoi, dans la mesure où on a l'impression que c'est un peu, il se laisse porter par un événement, puis par un mot qui va cerner cet événement et ainsi de suite. Et c'est plus une démarche comme ça qu'une démarche politique qui serait d'ailleurs pour le coup assez incohérente.
Un rat est venu dans ma chambre, il a rangé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tout blanc, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement, un dormant rat, mon flic dans mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais dans la nuit, quand je tiendrai la main de mon chéri. Un Chinois est sorti de l'ombre, un Chinois a regardé Londres. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine il fut tué et sourit. Et dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit, je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot en laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui paraît-il fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine il fut loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon chin-toc ébloui. Et chez Charlie il faisait jour et chaud. Tess jouait Daisy Bell sur son vieux piano, un piano avec des dents de chameau. J'ai conduit le Chinois dans ma chambre, il a mis le rat à la porte, il a remonté la pendule, il a rempli le pont à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos, alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé, un sale couteau rouge de vérité, un sale couteau rouge sans spécialité.
Parce que ce bouquin a eu à sa sortie un certain succès, hein, les tirages, les retirages, il y a eu une certaine notoriété, et aujourd'hui on peut dire qu'il est complètement oublié. Bon, votre travail a peut-être contribué à le remettre un peu sur le dessus de la pile des Macorlan, mais jusque-là, je ne sais pas s'il y a eu des rééditions récentes, mais en fait c'est un bouquin dont on ne parlait plus, quoi. Et c'était un petit peu aussi peut-être votre idée, non, de jeter un coup de projecteur sur un Macorlan oublié.
Oui, parce que c'est vrai que Macorlan, on l'associe souvent à Francis Carco. Bon, ils se connaissaient, c'est la même équipe. Quand on pense à lui, il y a les films qui ont été faits. Et puis, il y a toute l'atmosphère des ports, des marins, de la Java, les petits bouis-bouis. Son fonds de commerce, on peut dire, enfin, entre guillemets, hein, oui. Parce que c'est pas très obligeant ce que je dis là. On sent que c'est plus ça son atmosphère. Or celui-là, justement, cette cavalière, elle est quand même complètement atypique. Parce que si on prend ces Vénus, je me souviens plus du titre exact, c'est toujours, ça se rapporte toujours à des ports, à des marins, à des histoires un peu crapuleuses, un peu glauques. C'est la lumière froide, là. C'est superbe, hein. Je ne mets pas de jugement de valeur. Mais c'est une atmosphère qui est bien particulière et qui s'apparente beaucoup à ce que faisait Francis Carco, quoi. Et dans mon esprit, d'ailleurs, hein, ils étaient bien, bien mêlés à ce moment-là.
Oui. Dans les noms des personnages, il a été cherché, bon, visiblement, des héros shakespeariens. Puis aussi une certaine Pupchen dont j'ai découvert en parcourant. Oui, parce qu'il faut dire aussi que votre bouquin, il y a une. Comment on peut appeler ça? En complément, il y a toute une documentation qui permet de mettre en perspective un peu et d'initier la compréhension de l'histoire, quoi. Et cette Pupchen, apparue dans ce livre-là en 1921, serait à l'origine du nom que Brassens a donné à sa compagne, c'est ça que...
C'est ça, oui.
Ça aussi, ça aura un intérêt pour les brassensophiles. Cette histoire-là qui est peu connue aussi. Voilà, je vous remercie de cet entretien.
C'était avec plaisir, en tout cas. Voilà.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, und zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Nous vous avons proposé une émission réalisée à partir d'un entretien avec Jean Cubeau, entretien de septembre 2010, à l'occasion de la parution d'un livre qu'il avait réalisé. une version d'un ouvrage de Pierre Macorlan, La Cavalière Elsa, en bande dessinée. Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, ne le demandez pas à votre libraire, mais tapez plutôt « Terroir la cavalière Elsa » sur Google et vous aurez tous les renseignements utiles. Au fil de cette émission, nous vous avons proposé les illustrations musicales suivantes, toutes extraites de la deuxième partie d'un spectacle intitulé « Cabaret Macorlan » donné le 18 septembre 2010 à Saint-Cyr-sur-Morin, avec Pierre Delorme, Anne Fromm et Gérard Lapalu. Tout d'abord, un morceau instrumental d'Europe centrale, interprété par Gérard Lapalu. Puis c'est Pierre Delorme qui chantait sa composition « J'ai vu le Gange et l'Amazone ». Puis Anne Fromm, sur la musique de Kurt Weill, les paroles de Bertolt Brecht, interprétait « La fiancée du pirate ». Ensuite, c'est Pierre Delorme qui chantait sa composition « Mes copains de ce temps ». Puis une autre de ses compositions « Djibouti ». Ensuite, Anne Fromm chantait à nouveau Bertolt Brecht et Kurt Weill, La Complainte de Maquis. Elle interprétait ensuite La Fille de Londres de Pierre Macorlan sur la musique de Victor Marceau. Et juste précédemment, elle interprétait la chanson Que sont devenues les fleurs de Pete Seeger. Pour terminer, nous vous proposons une chanson encore plus inédite de Pierre Delorme, qu'il a également interprétée lors de cette soirée. Une composition de Michael Peter Smith qui évoque le triste destin d'un militaire hollandais revenu de la guerre en ayant perdu une bonne partie de sa raison. Cette chanson anglo-saxonne, The Dutchman, Pierre Delorme l'a traduite et adaptée. La voici, bonsoir.
Ça n'est pas le genre de personne à bâtir les digues qui tiennent au loin les rêves. Et Margot connaît son secret. Le jour se lève sur Amsterdam, Margot lui verse du café. Il parle, elle dit oui. Il dit que les tulipes poussent sous la neige. Il perd la tête, oui, mais Margot, dans ses grands yeux bleus, croit voir parfois les enfants qu'ils n'ont jamais eus. Allez, viens faire un tour sur l'océan, sur la digue au-dessus du Tuilesee. C'est là-bas qu'autrefois j'étais jeune homme, et Margot s'en souvient bien pour moi. Il porte toujours des sabots et le vieux manteau que Margot rapièce avec amour. Il croit qu'il vit à Rotterdam. Il descend voir les remorqueurs le long du canal. Il appelle le nom des capitaines. Puis Margot vient et le ramène dans le dédale des rues. Elle tient sa main mais il chancelle. Comme un enfant, il appelle parfois son nom. Allez, viens faire un tour vers l'océan, sur la digue au-dessus du Tuilesee. C'est là-bas qu'autrefois j'étais jeune homme, et Margot s'en souvient bien pour moi. Les moulins tournent au vent d'hiver. Il est assis dans la cuisine, emmitouflé, et Margot verse du rhum dans son café. Il la regarde qui prépare le lit et le fredonne une vieille chanson d'amour, chanson du temps de sa jeunesse. Et il fredonne un peu avec elle dans la nuit. Puis il s'endort et Margot éteint la bougie. Allez, viens faire un tour sur l'océan, sur la digue au-dessus du Tuilesee. C'est là-bas qu'autrefois j'étais jeune homme, et Margot s'en souviendra pour moi.
Thank you.